Nous sommes mercredi 27 mars 2019 et vous écoutez le Dojo Bar. Bonsoir à tous, bonsoir Zergy.
Salut.
Qui est de retour. Chaque fois que je prononce un mot ou maintenant je m'attends
ouais,
autour de
désolé, hein, c'était compliqué là pour participer. Mais une fois sur deux, c'est quand je travaille de soirée donc je peux pas être là et du coup je dis des conneries dans le chat.
Mais ce qui est bien aussi, hein, c'est il faut des gens pour dire des conneries dans le chat. Bonsoir Mexon.
Salut.
On va encore être dans un dojo bar en petit comité. On va parler de jeux indépendants. On va essayer de donner une espèce de définition du jeu indépendant, sachant que Monsieur Antix nous a donné une définition intéressante. Je pense que ça mériterait d'être creusé. On va parler du dernier Nindies Direct, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de présenter, beaucoup de choses intéressantes. Mm-hmm. On va parler de FF7 sur Switch, on va parler de Nintendo sur mobile, mais on va commencer par le, je cite, Sony Direct LOL. Alors, Mecton, je te laisse, puisque tu as fait le malin,
oui.
Comme d'habitude, et qui ça. Fait le malin tombe dans le ravin, et voilà, donc je t'en prie.
Alors, fidèle à ses habitudes, Sony s'est balancé dans... Enfin, a trouvé quelque chose qu'il n'avait pas encore copié. Donc là, ils se sont lancés dans une copie, pâle copie, je spoil direct, du concept de Nintendo Direct. Donc de petites vidéos de présentation avec des sujets divers... diffusé sur tous nos médias de streaming qu'on aime bien. Donc leur émission, ils ont appelé ça le State of Play. Bon, voilà, fallait trouver un nom original, pourquoi pas. Le gros problème...
Pas original.
Ok, soit. Tiens, j'ai découvert au passage d'ailleurs que Microsoft avait un format équivalent.
What?
Ouais, ils appellent ça Inside Xbox, un truc comme ça, je sais plus.
Ah, In Bed with Xbox?
Ouais, je sais pas. Bon, ouais, non, j'ai la flemme de retrouver le truc... Mais voilà,
non,
a priori, tape, hein. Ils déjà
un truc. Déjà le format de Sony, on a quand même pas grand-chose à carrer, mais le format de Microsoft, je dois t'avouer que là...
Donc là où le truc de Sony, c'est... Bah, ça a été un peu un grand mais. Leur vidéo faisait une vingtaine de minutes, et ils ont causé, allez, pendant 18 minutes de jeux en VR, la plupart étant anecdotiques à mon goût. Voilà, c'était ronflant, c'était du flan. Et là où c'est très soniesque dans la stratégie de communication, c'est qu'ils se sont tellement pris... Vous savez, sur YouTube, il y a possibilité de mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas. Selon si on a aimé ou pas. Et le ratio était tellement dégueulasse... Qu'ils ont en fait supprimé.
Ils ont supprimé la vidéo.
Ils ont supprimé la vidéo pour la re-uploader, quoi. Ça n'a pas marché, le ratio est toujours aussi dégueu, mais voilà. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était un petit move pour remettre le compteur à zéro? C'est pas trop.
Bah, tu vois, ça, ils l'ont copié du Dojo Bar quand Mortal se chie avec la console de mixage.
GG.
Tout à fait. C'est exactement la méthode qu'on emploie. Parce que c'est. Voilà, c'est exactement ce qu'on emploie comme méthode, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne le savez pas, mais si vous nous écoutez en podcast, en fait, il faut savoir que l'émission est énormément coupée, c'est-à-dire qu'on coupe toutes les blagues racistes, on coupe chaque fois qu'Antix fait dans son micro, on coupe Mecton qui rigole, on coupe quand il fume, on coupe Zergy qui fait des blagues pas drôles.
Putain, je fais gaffe.
Non, mais voilà, moi, regarde. Je coupe absolument tout au montage, c'est-à-dire que normalement l'émission fait 4h30, et en réalité...
Les gens dans le chat peuvent témoigner.
Mais ça arrive. Hmm. Ça arrive pour de vrai.
Ah, c'est Inside Xbox, des JBC, et ça ressemble plus à un talk show qu'à un direct à la Nintendo comme on les connaît.
Ouais, mais ça enfin, moi je suis... Je pense que le format est pas inintéressant. Maintenant, le Sony Direct, j'ai l'impression que... Ils sont un petit peu... Après, le Nintendo Direct, ça a pas été bien tout de suite. Il a quand même fallu une petite période de rodage. Mais tu veux, le côté
j'ai demandé,
Nawak...
Je me rappelle pas.
Bah, le tout premier que j'ai vu, moi, c'était quand même Satoru Iwata qui tenait une banane. Les fameuses bananes.
Ah, c'était celui de l'E3, ça, oui. Avec
c'est
les
ça.
Muppets.
Il regardait... Non, c'était celui de bien avant, parce qu'en fait, il y a l'un des tout premiers, mais il était vraiment en physique, avec des bananes dans la main gauche. il regardait les bananes comme ça de profil, puis à un moment, il regarde la caméra en mode, c'est bon, vous l'avez la prise, tu vois. Et les mecs ont coupé à ce moment-là, quoi. Le truc est pas du tout pro, mais c'est juste ça qui fait que c'est fun.
C'est funky, quoi. Ouais.
En fait, c'était tellement l'usine à même dès le départ, le grand nawak, que ça marche. Enfin, moi, j'ai accroché tout de suite. Si les mecs font un truc sérieux dès le départ, je vois pas l'intérêt, quoi.
Là, ça faisait vraiment... Je l'ai regardé, je l'ai parcouru en pointillé.
C'était trop corporate.
Ouais, c'est ça, c'est une vidéo...
C'est trop formaté.
C'était une pub de 20 minutes.
Voilà. Après, ils ont...
Après les derniers Nintendo Direct, j'ai vu celui de février, bon, c'était un peu... C'était pas trop l'usine à même, quoi.
Je pense que la légende du Nintendo Direct s'est construite là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens le suivent, c'est parce qu'ils s'attendent éventuellement à ce qu'il y ait des clins d'œil et des trucs un peu marrants. Mais effectivement, c'est nettement moins le délire total que ça l'était il y a quelques années. Où c'était vraiment le truc avec les Muppets, c'était juste n'importe quoi, mais c'était vraiment drôle.
Ouais. Et là, pour le coup, ce que j'aime bien dans le format récent, c'est qu'il est souvent entrecoupé par des petites interviews de développeurs ou de producteurs de chez Nintendo. Enfin, t'as un truc vivant, tu vois des gens.
Oui, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est quand effectivement t'as des développeurs. Bah, moi, ce qui me manque énormément, c'était les Iwata Ask. Hein. C'était vraiment, je trouve, le hyper, hyper. C'est instructif, c'est intéressant, et tu sentais que le mec se prenait au jeu aussi. Et c'est vrai que on nous dit depuis la mort d'Iwata, c'est vrai que c'est un peu moins fun les directs. C'est peut-être compliqué aussi pour eux d'arriver à trouver le bon ton, et c'est pas facile du tout, parce que si t'en fais trop, t'es tourné au ridicule. Si t'en fais pas assez, bah c'est pas assez, quoi. Je pense que c'est pas si évident que ça d'être drôle en étant dans l'autodérision.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. On va passer au sujet suivant. Alors, attendez, j'efface.
Pour Sony, vous mettez Ken Kutaragi et vous arrêtez de parler de VR, tout le monde s'en fout.
Si vous mettez Ken Kutaragi qui est déguisé en poulet, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Non, mais je sais pas. Ken Kutaragi déguisé en poulet. Voilà. Essayez de visualiser Ken Kutaragi déguisé en poulet. Voilà, là, il y a du Nintendo Direct matériel. Là, il y a quelque chose. Là. Bref. Final Fantasy VII sur Switch. Alors, c'est un symbole avant tout. Tardy nous rappelait sur le forum, dans la partie privée, où nous préparons ces émissions.
On a déjà eu Night Trap sur console Nintendo. Tout est possible. Hein.
Voilà. Finalement, Night Trap, c'était pas si bien que ça.
C'était pas ton GOTY 2018 ?
Non, alors, franchement, j'ai passé une très bonne soirée. À jouer à Night Trap, parce qu'en plus j'ai joué en direct. Mais donc j'ai passé vraiment une bonne soirée, c'est-à-dire que je m'attendais pas à m'amuser sur le jeu comme ça.
S'amuser sur Night Trap, c'est un super play ça.
Non mais franchement je suis plutôt bien amusé. Hein.
Ok, t'as réussi à le finir ?
Non pas du tout.
Oui moi non plus. C'est juste impossible quoi.
Je sais pas si c'est vraiment impossible, mais si tu veux, je me suis vraiment... Enfin, c'est-à-dire, je comprenais pas du tout l'intérêt du jeu. Mm-hmm. Je comprends pas plus l'intérêt du jeu maintenant, hein, c'est pas la question. C'est, je comprends pourquoi les gens pouvaient avoir envie d'y jouer.
Ouais, non mais oui.
Parce qu'en fait, même si c'est très mauvais, l'acting est hyper mauvais et tout ça... Il y a quand même une espèce de curiosité un peu morbide pour voir jusqu'où ça va. C'est un peu comme quand tu regardes un mauvais film, finalement, et il y a un moment où tu bascules du « c'est chiant comme film » à « putain, est-ce qu'ils peuvent faire pire que la scène d'avant ?» Et moi, c'est exactement ça que ça m'a fait. Je suis un grand, grand fan de films de série B, et c'est exactement le genre de sentiment que ça me fait, c'est-à-dire de me dire « putain, est-ce que ça peut aller encore plus loin ?» Voilà. Bon, bref, on n'était pas du tout pour ça, on était là pour Final Fantasy.
7, le chat est en feu.
Il y a marqué Final Fantasy VI. Vous êtes des connards. C'est vrai, j'ai oublié. Attendez, j'arrive. Excusez-moi, il n'était pas sur console Nintendo jusqu'à présent, donc je faisais une espèce de blocage mental.
Excusez-le.
Donc voilà, Camarade Tardy nous rappelait que c'était un jeu important, que c'est la première fois qu'il était sur une console Nintendo, c'est vrai. Il a quand même fallu 20 putains d'années.
22.
Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à en dire à part le fait que c'est effectivement quelque chose, un point historique éventuellement un petit peu intéressant.
Le symbole est balèze. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une, ça me fait marrer d'y repenser. J'avais une vieille pub à l'époque avec une déclaration d'un mec de chez Squaresoft à l'époque qui disait le jour où ce jeu sortira sur cartouche, la cartouche vaudra 1500 balles.
Alors, il n'est pas sorti sur cartouche encore.
Non, mais il pourrait. Mais voilà, c'est drôle avec le recul de se dire que le jeu de la Discord finalement est rentré à la maison.
Il est revenu là où il devait.
C'est ça. Pour les curieux, en deux mots, alors là où FF9 c'était l'émulation de la version smartphone, ça allait loin. Dans FF9, quand on te demandait de nommer les personnages, c'était tellement la version smartphone que le texte te disait merci de ne pas utiliser d'émoticônes. Les mecs n'ont aucune race, quoi.
Vraiment aucune race.
Là pour FF7, je sais pas si c'est la version smartphone ou pas.
C'est la version Steam.
Ouais, ok. Ça a l'air un peu mieux branlé, même dans les petites modifs qui rendent le jeu un peu plus agréable aujourd'hui. Je pense notamment à la petite feature qui te permet d'accélérer la vitesse du jeu. Dans FF9, il fallait mettre le truc en pause, appuyer sur une touche, ça accélérait le jeu. Pour le supprimer, il fallait remettre la pause, réappuyer sur la touche. Là, sur le 7, il suffit de faire un clic sur le stick gauche et hop, ça accélère.
D'accord. Donc c'est plutôt bien foutu. J'ai quand même une question pour vous. Est-ce que c'est la version française?
Oui, d'époque.
Oh.
Avec tous les problèmes ou le lol que ça...
D'accord, donc les mecs assument le fait que la traduction était éventuellement au schnapps, quoi.
Ouais. Ouais.
Ok, c'est cool. Je ne savais pas, je suis très content de voir qu'effectivement, il y a un peu de respect par rapport à, on va dire, d'autres éditeurs ou... Sony... voilà. Où il y a effectivement des versions du non. Attendez, deux secondes. Ça veut dire que la version de Final Fantasy VII qui est sur Switch est meilleure que la version de Final Fantasy VII qui est sur PlayStation Mini.
Oui, ça dépend ce que tu en veux, mais oui. Oui. Elle est...
À un moment, voilà.
Oui, elle est plus agréable, quoi. Voilà.
On nous dit un problème avec le schnapps. Non, c'est très très bon. j'ai pas de problème avec le schnapps. On va passer au sujet suivant. Nintendo sur mobile, pas assez cher, mon fils. Alors, on a un article très intéressant qui avait l'air d'être de sources très bien informées et qui nous disait Nintendo sur mobile, enfin, Nintendo ne serait pas assez cupide sur mobile. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est-à-dire que Nintendo ne voudrait pas faire cracher au bassinet les joueurs plus que de raison. Et voudrait effectivement préserver les joueurs et éviter de faire des pay to win et des choses comme ça.
De les rincer. Les essorer.
Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une branche de l'industrie, parce que le jeu mobile c'est quand même une branche importante de l'industrie. Est-ce que vous pensez qu'elle est perdue définitivement? Et on n'arrivera rien à en faire. C'est-à-dire que les mecs, de toute façon, c'est des industries qui sont hyper cupides par finalement presque par culture. Ou est-ce que vous pensez que Nintendo peut éventuellement faire changer les choses et essayer de shifter le truc en disant on n'a pas forcément besoin, si on met un peu de moyens et qu'on est raisonnable, on n'a pas forcément besoin de faire cracher les gens à ce point-là.
C'est-à-dire, est-ce que tu penses que l'avenir ou la philosophie Nintendo serait plus dans développer des jeux qui durent longtemps ou des trucs éphémères comme qui se rappelle de Candy Crush, qui joue encore aujourd'hui?
Toi, Candy Crush, pas grand monde.
Toi, ce truc qui a ponctionné des millions pendant une dizaine de mois, et qui est tombé dans l'oubli aujourd'hui, je ne sais pas.
Tu penses vraiment que... Enfin, tu penses pas que Nintendo pourrait faire... Enfin, à eux seuls, changer tout le truc, ça me paraîtrait étonnant, mais pourquoi pas? Tu penses vraiment pas qu'ils seraient capables d'aller influencer un petit peu le truc, quoi? Même très peu.
Je suis pessimiste, hein, mais pour moi, c'est l'actionnaire qui décide tout à la fin, quoi. Donc, si ça rapporte pas assez de blé, ils diront, oublier, terminer, et puis basta, quoi.
C'est tout, il n'y a pas plus que ça, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment une industrie qui est perdue, quoi. Enfin, on n'en fera rien.
Je suis peut-être pessimiste, hein, mais je le vois vraiment comme un marché où tu as des petits jeux qui vont émerger, qui vont cartonner pendant X mois, et après, merci, on passe à autre chose.
D'accord, il n'y a pas de... moi j'ai l'impression qu'effectivement c'est un peu comme ça que ça marche, et que finalement il n'y a pas que Nintendo qui fait des jeux qui sont un petit peu dans la durée.
Je peux pas t'en citer d'autres, je connais pas plus que ça. Mais...
Ok. Il n'y a pas de. Enfin, j'ai des trucs comme je pensais à Clash of Clans ou des choses comme ça, c'est-à-dire.
Mais tu rack là-dedans, non?
Bah, tu rack, mais c'est quand même prévu sur la durée. Je veux dire, ça dure quand même depuis un petit moment sur mobile. Alors, je veux bien que Candy Crush soit peut-être plus aussi joué, et encore, je suis même pas sûr.
Quand on dit crash.
Candy Crush. C'est comme ça qu'on dit?
Nazlof nous dit, ouais, pour lui, le mobile, c'est un autre monde en fait, avec d'autres business plans du coup. Et donc il pense que Nintendo, il serait allé juste pour faire connaître leur licence, mais sans forcément, j'imagine, avoir la volonté d'en faire une cash machine.
Bah, c'était un petit peu dans leur idée, hein. C'était, je sais plus comment ils avaient formulé ça, mais c'est soumettre les gens plus souvent aux licences Nintendo.
Donc juste pour les faire
Après,
connaître.
j'ai l'impression qu'au niveau mobile, ils n'ont pas de business model unique, puisqu'ils ont essayé plusieurs trucs. Ils ont essayé le jeu avec un achat unique, qui est Mario Run.
Mario, ouais.
Voilà, ils ont essayé le Fire Emblem, où il y a des achats en jeu.
Ça s'est calmé d'ailleurs. Au début, ouais, si tu lâchais pas un peu de thunes, bah, tu attendais le lendemain pour jouer. Aujourd'hui, les orbes, mais elles pleuvent.
Sur quoi? Sur Fire Emblem, c'est ça?
Ouais.
Mais du coup, ils se sont calmés ou... Enfin, c'est un changement de
Alors,
politique ou c'est...
je sais pas, enfin, tout ça est tombé un peu en même temps que, je sais pas si tu te rappelles toute la polémique sur les taux de loot qui étaient pas clairement affichés. Je me demande si avoir assoupli un peu le truc, c'était pas aussi une réponse pour pas avoir forcément à dévoiler les recettes internes. Mais oui, non, le fait qu'ils cherchent pas à te piquer ton pognon pour la moindre action. Tu lances n'importe quel de leurs jeux dispo aujourd'hui, tu le sens. Là, je suis pas mal sur Animal Crossing en ce moment, et clairement, enfin, ça fait. Ouais, je ressens pas du tout le besoin de claquer 1 ou 2 euros pour me faciliter la vie, quoi.
D'accord, donc c'est vraiment, enfin, y a une vraie volonté, a priori, d'essayer de faire quelque chose de respectueux du public, on va dire.
Oui, parce que
C'est vrai que c'était pas forcément le cas d'Animal Crossing au départ, moi, si j'avais bien compris,
non,
hein.
au départ, c'était vraiment. Tu lâchais pas de thunes, t'étais bloqué en 10 minutes de jeu, quoi. Là, aujourd'hui. Bon, ça reste des trucs à picorer, hein. Mais bah, tu sens pas du tout le besoin de cracher au bassinet. Et c'est pas pour autant que c'est un jeu mort. Tu te prends un petit update avec une petite nouveauté tous les 2-3 mois, quoi. Allô, allô?
Pardon, excusez-moi.
Tiens, petit souci?
Non, non, j'ai coupé mon micro au même moment.
Ok.
Donc Paul qui nous dit,
Je retire pas ça au
aujourd'hui,
montage.
tu... Voilà, surtout pas. Aujourd'hui, tu peux jouer régulièrement à Fire Emblem Mobile en te passant très largement de ta carte bleue. Ce qui était peut-être pas le cas au tout début. Alors après, peut-être que les histoires de lootbox ont un petit peu calmé tout le monde, mais j'ai le sentiment qu'il y a encore de la cupidité dégoulinante chez certains éditeurs, notamment de jeux mobiles, qui sont pas vraiment été calmés par les problèmes d'Electronic Arts. Ce qui est quand même un... Enfin, je sais pas, c'est toujours un peu gênant, sur le principe. Bref,
Du coup, oui, si
bon.
ta question c'était est-ce que ce marché a un avenir?
Non, clairement pas. Non, mais je pense que c'est compliqué de durer et on le voit bien avec... je sais plus quelle est la société mère de Candy Crush. Je me souviens jamais, c'est des
C'est
Néerlandais, je
pas
crois.
EA ou Activision qui les a rachetés?
Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, depuis qu'ils ont été rachetés, le truc
Bah, ils ont
périclite,
rien
quoi.
fait.
Ouais, voilà.
Voilà,
Bah, comme
qui se
prévu, hein,
souvient
mais...
de Zynga?
Ah, Farmville! Ah oui.
De quoi?
Le chien écrasé.
Ah, je connais pas du tout.
C'était eux, ça, oui.
Oui,
Farmville, c'était
tout
Zynga.
ça, Farmville, voilà, c'est ça, c'était eux, ouais.
Zynga, oui, tout ça, c'est fini maintenant. Enfin, Zynga, ils existent peut-être toujours, mais je veux dire, ils ont plus un chiffre d'affaires délirant et des investisseurs qui comment dire, les inondent de pognon en permanence.
Je sais pas. Ah, ok. Alors, juillet 2012, Zynga est l'objet d'une action collective sur fond de soupçons de délit d'initié.
Putain, la
Ça
vache.
sent bon, tout
Ça sent la fin, quand même.
ça.
Bref. Bon, Allez, on va abréger là-dessus parce que je sens que le sujet est quand même un peu piégé. Alors, sur une suggestion de Monsieur Tardy ou de Monsieur Mecton.
Tardy, celle-là.
Tardy. Donc merci Monsieur Tardy pour cette suggestion qui nous dit un petit truc qui se passe sur Crypt of the Necrodancer que je ne connais pas du tout. Donc je suis désolé de mon inculture totale sur ce jeu.
Alors c'est un petit jeu, je te le donne en deux mots. C'est un RPG vu de dessus, classique, un peu dungeon crawler, avec des cartes découpées en cases. Où tes déplacements vont se faire sur des cases, mais chaque action doit se faire en rythme avec la musique.
Ça a l'air sympa.
C'est très cool.
C'est jeu de rythme. Alors le problème c'est RPG dungeon crawler. Moi je vais pas y arriver, mais.
Ouais, vite, c'est un habillage. C'est un habillage dans ce genre-là.
D'accord.
Voilà.
Cool. Donc on va écouter un morceau qui s'appelle Disco Descent et qui est donc proposé par l'ami Tardy. Ça dure à peu près 3 minutes. Je suis désolé de mentir dans le podcast, hein, mais voilà. donc voilà, on se retrouve tout de suite après. Et attendez, il faut que je le lance correctement. Ah, et puis c'est pas dans le bon sens, là. Attendez.
Alors, attends,
Je meuble.
Nous, on va faire une chanson.
Alors, vous pouvez essayer de faire la chanson de Crypt of the Necrodancer, mais ça va être compliqué. Voilà. Ça y est, c'est bon. Excusez-moi, j'avais pas mis dans le bon sens. Voilà, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Nous voilà de retour. Et vous remarquerez que cette transition n'était pas du tout foirée.
Du tout.
Et ça fait plaisir, en vrai, parce que c'est pas souvent. Donc, on va parler de jeux indés, et il est venu une question dans un dojo bar, il y a deux ou trois dojo bars, de dire mais qu'est-ce que c'est vraiment qu'un jeu indé ? C'est-à-dire qu'entre World of Goo, qui a été réalisé par deux gus dans leur garage sur leur temps libre, et que les mecs disaient, sur la fin, on était obligé de se shampouiner avec de l'antipuce pour chat, et de bouffer de la bouffe pour chat tellement on n'avait plus de thunes...
Ça fait envie de se lancer dans le dev, tiens.
Ça donne envie, ouais, clairement. Et non, des jeux...
Effectivement, il y avait un type qui avait dit, si vous voulez perdre du poids, vous faites du jeu indépendant.
C'est un peu ça. Enfin voilà, tu et les équipes aujourd'hui un peu structurées, genre Dead Cells, c'est quand même 1 million de ventes, c'est quand même des trucs qui sont sortis en physique. Alors certes, ça reste un jeu dit indé, mais t'as une équipe de 15 personnes derrière qui a priori a bouffé correctement, enfin n'est pas en mode totalement amateur ou totalement indépendant. Je pense aussi à l'exemple de Cave Story, qui est vraiment un jeu qui a été développé par une seule personne sur son temps libre au fil des années.
Stardew Valley.
Ouais, bah après, je pense qu'il y a plusieurs profils, parce que, tu vois, le mec de Cave Story, il avait peut-être un boulot à côté, ce qui fait qu'il a fait ça sur son temps libre et qu'il a pas eu à se shampouiner avec de la bouffe pour chat.
C'est un magnifique raccourci.
Et puis, en plus, enfin, si tu veux, au fur et à mesure des années, je pense que le jeu indé, c'est un petit peu, disons, professionnalisés entre guillemets, et ils sont moins à l'arrache quand ils font leur production.
Tu penses que ça c'est... Il y a JBC qui nous dit ça ressemble un peu à un terme fourre-tout qui désigne les jeux qui sont pas des doubles ou triple A. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai l'impression que le marché du jeu vidéo, mais comme beaucoup de marchés en fait...
Il y a plus trop de double A maintenant.
Ben, c'est ça en fait, les marchés se polarisent énormément, c'est-à-dire t'as les très gros triple A d'un côté avec des 100 millions d'euros de budget, 300 personnes dans l'équipe, 4 ans de temps de développement, et de l'autre côté... Tu as les studios 8, 10, 15 personnes qui font leur petit jeu dans leur coin avec des petits budgets et qui galèrent éventuellement à trouver un éditeur dans le pire des cas, ou qui finissent par s'éditer eux-mêmes sur les plateformes dématérialisées quand ils le peuvent. J'ai l'impression que tout est en train de se polariser comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement,
ouais,
le double
série
A,
B, quoi.
C'est un peu ça. C'est-à-dire que Darksiders 3, par exemple, qui est quand même très largement considéré comme un second couteau dans ce genre de cas-là, a fait un four monstrueux.
Enfin, c'est moche.
C'est moche parce que c'est pas...
Oh, c'est cool, Darksiders.
Non, mais moi, je trouve ça cool comme jeu. Enfin, c'est plutôt... Effectivement, c'est du jeu hamburger, quoi. Facile, rapide, indigeste. mais moi, ça me posait pas de problème d'avoir des jeux un peu intermédiaires comme ça, comme à l'époque GameCube, où finalement, quand t'as écumé les vrais AAA, genre Smash Bros, Mario Sunshine, les vrais très gros blockbusters de la machine, t'as un vivier énorme de jeux, on va dire, aux ambitions plus modestes qu'en termes de réalisation ou en termes de gameplay, mais qui peuvent avoir des aspects hyper intéressants. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a voilà, les indés d'un côté, qui font des expériences de jeux extrêmement courtes, parfois très léché, hein, on a vu Gris ou des choses comme ça, mais l'idée c'est toujours de proposer finalement pratiquement du fast-food.
Ouais, chercher une originalité. Ou...
Voilà, chercher un concept, chercher une idée de gameplay, la développer le plus possible, mais pas la tirer sur 30 heures de jeu parce que ça n'a pas d'intérêt. Et d'un autre côté, les gros AAA. Mais voilà, la question c'est qu'est-ce qui fait un studio indé ? Alors, je vais vous lire la définition que nous a donnée Monsieur Antix, parce que je trouve qu'elle est très intéressante. Antix, si tu nous écoutes, on te fait des gros poutous sur les fesses. Alors voilà, le temps je la retrouve. Il dit « Il est important de rappeler qu'on appelle indépendant dans l'industrie de la culture un projet dont le financement n'est pas fait par un gros studio ou une grosse maison de disques, peu importe la taille ou le style du projet. À ce titre-là, Star Wars 1 à 3 pourraient presque être considérés comme des films indépendants, vu qu'ils sont essentiellement le fruit de la boîte de George Lucas qui le finançait à 100%. »
C'est vrai.
Alors, la définition est peut-être un peu curieuse. Enfin, ça peut paraître curieux. Mais c'est quand même assez représentatif. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas les gros... Pour le cinéma, en tout cas, c'est pas les très gros studios bien établis qui financent un projet auprès d'un réalisateur, d'un script, et ainsi de suite.
Il n'y a pas de commande, quoi.
Voilà, il n'y a pas de notion de commande ou de choses comme ça. C'est pas « on va faire le prochain Marvel ». C'est... J'arrive et je décide de faire un film là-dessus et je me débrouille pour le financer comme je peux. Et en général avec de multiples sources de financement en ce qui concerne le cinéma. Je sais pas si c'est vrai pour la partie jeux vidéo, c'est-à-dire si le côté multiples sources de financement existe.
Je sais pas, et même au-delà de ça, la dimension artistique, tu vois, si on continue le parallèle avec le ciné, tu as la relation réalisateur-producteur, où le producteur, surtout aux États-Unis, a un énorme droit de regard sur le boulot du réal. Est-ce que dans le jeu, le producteur a son mot à dire sur le travail du développeur ? L'éditeur, pardon. Est-ce que l'éditeur peut dire quelque chose sur le dev ?
Ben, en théorie, l'éditeur, c'est quand même lui qui commande. C'est-à-dire que t'as bien deux métiers différents. T'as l'éditeur dont l'objectif est d'aller porter le projet, d'aller demander les ratings ASRB, d'aller promouvoir le jeu... d'aller fabriquer le jeu véritablement, et t'as le développeur dont l'objectif est de faire le jeu, mais... Enfin, c'est comme tout. Le réalisateur d'un film, il a des comptes à rendre au studio. Maintenant, dans un film indépendant, le réalisateur du film, il a quand même des comptes à rendre à ses producteurs. Ils peuvent être nombreux, ils peuvent lui laisser peut-être une plus grande marge de manœuvre, parce qu'il y a peut-être moins de risques financiers, mais ça, on va dire que c'est une question un petit peu à part. Par contre, t'as quand même des comptes à rendre. Enfin, je vois pas comment tu peux ne pas rendre de compte.
C'est vrai.
Du coup, ça te fait effectivement un truc un peu bizarre, un peu bâtard, dans lequel... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une énorme confusion, peut-être volontaire, hein, entre le jeu indé en termes de style et le jeu indé en termes de véritables moyens de production.
Ouais, parce que tu vois, le chat soulève le... On a donné ça comme un troll dans l'émission où on en parlait, mais si tu pars du fait qu'un jeu est développé sans avoir une commande ou que le dev fait à peu près ce qu'il veut, dans ce cas-là, tous les jeux Nintendo sont indépendants.
Ben... Peut-être. C'est peut-être... Pas forcément, parce que tout ce qui est fait par Goodfield, par exemple, les deux ou trois derniers Kirby... le prochain Yoshi, d'ailleurs, c'est une commande de Nintendo.
Du coup, clairement. Oui, oui.
Donc là, ça ne l'est pas.
Et les trucs de chez EAD ?
Est-ce que... Alors, ça reste un studio interne. Alors, je ne sais pas si les studios internes, ça marche. À l'époque du cinéma, le cinéma était une véritable industrie. C'est-à-dire, au sens où, avant le nouvel Hollywood, en fait, C'est-à-dire que le cinéma, c'était les studios de cinéma, donc la Paramount, Universal et tout ça, c'était une production industrielle de films, exactement comme on avait une production industrielle de voitures. C'est-à-dire que les acteurs
étaient... pour les vendre.
C'est exactement ça, les acteurs étaient des employés, les réalisateurs étaient des employés, les équipes techniques étaient des employés, et en fait, il n'y avait pas de... Voilà, c'était en mode production-production. Là, à ce moment-là, tu pouvais pas véritablement considérer non plus que c'était des films indépendants. Donc moi, les trucs internes de Nintendo, les trucs internes des gros éditeurs, les studios internes des gros éditeurs, j'aurais tendance à dire qu'en réalité, qu'ils soient internes ou externes, ça reste quand même des commandes de gros éditeurs pour les studios internes des gros éditeurs. Yeah. Maintenant, je vois quand même des exceptions un peu notables. Je pense à Ubisoft, notamment, avec Child of Light, je crois, si c'est ça.
Oui.
Et il y avait le truc sur la Première Guerre mondiale, je me souviens plus comment ça s'appelle.
Soldat inconnu.
Voilà, où c'est... Ça reste des gros jeux d'Ubisoft qui ont été qualifiés de jeux indés, alors que bah, c'est pas vraiment des jeux indés, c'est des jeux dans
un
style de jeu indépendant.
Style de jeu indépendant, voilà. Et...
Bah, est-ce que ça arrangerait pas certains éditeurs de passer pour, enfin, je veux dire, EA qui fait Unravel 2, est-ce que ça les intéresse pas de, ah, tu vois? D'avoir ce style indépendant, de faire genre ouais c'est un truc indépendant, c'est pas un gros truc de gros studio, mais en fait bon dans la réalité ils financent tout, ils ont la main sur tout et tout ça.
Ouais, alors du coup si c'est ça je leur en veux un peu, parce que pour moi ils pervertissent un peu cette idée sûrement utopique hein, mais de jeu indépendant où tout est permis, t'as ta créativité qui est libérée, t'as une idée à la con, bah tu fais un jeu avec, tu vois si c'est intéressant ou pas. Là, tu injectes du EA dedans, donc ce serait...
Ils pervertissent tout ce qu'ils touchent.
Voilà, ce serait revenir au truc mercantile. Je fais mon jeu pour faire de la thune, bah les couilles si c'est intéressant ou pas. Quoi.
Mais ouais, c'est quand même hyper, hyper dommage du coup. Enfin, tu risques de perdre un peu cet état d'esprit. Enfin, c'est toujours dans cette idée de... Enfin, je sais pas, de...
Et du coup, ouais, tu vois, Nazler soulève la question, est-ce qu'on est sûr que EA a financé Unravel ou est-ce qu'ils font que l'éditer?
Alors ça, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais c'était juste pour citer un exemple de jeu qui fait indépendant et qui, pour moi, était... Enfin, c'était quand même compliqué de le qualifier de réellement indépendant.
Moi non plus, pareil, tu vois, on parlait de... Puis Nazler aussi parlait de Cuphead, donc qui jusque-là, on en reparlera, a été exclu Microsoft. Donc pour moi, c'est Microsoft qui avait verrouillé la distribution du truc pour en faire une exclue. Est-ce que dans les coulisses, c'est aller jusqu'à une aide au financement? Je ne sais pas.
Bah, je ne sais pas du tout, moi. Honnêtement, je me pose simplement la question de savoir si ce serait pas... Enfin, si on est vraiment dans le cas d'un jeu indépendant ou pas. C'est-à-dire qu'on peut quand même commencer à se poser des questions.
Et du coup, je me dis que plus la discussion avance, plus peut-être on est en train de confondre le jeu indépendant et jeu arty.
C'est ça. Moi, ce que je crains beaucoup, c'est ça. C'est que il y a. Mais je pense que Child of Light et machin truc là. Pourquoi ils l'ont pas appelé les poilus? Ça aurait été plus simple pour se rappeler du nom. Là.
Soldat inconnu.
Merde. Voilà, ça va ça. Et Soldat inconnu, t'es dans le cas type de. C'est un jeu arty, mais c'est absolument pas un jeu indé. Rien d'indépendant et tout ça. Et finalement. Est-ce qu'on va pas se retrouver dans une espèce de modèle dans lequel les gens finiront par rechercher de nouveau du vrai jeu indépendant, c'est-à-dire du jeu fait par des tout petits studios qui ont peu de moyens mais beaucoup d'idées, et ce genre de trucs-là.
Ouais, où l'histoire de la création du jeu est aussi intéressante que le jeu, quoi.
C'est exactement ça. Est-ce que ça, c'est des choses qui pourraient arriver, ou est-ce que ça va être compliqué?
Ça pourrait être cool. J'y crois pas une seconde, hein, mais ça pourrait être cool.
Je sais pas s'il faut y croire ou pas, en vrai.
Non, franchement, on n'en parle pas aujourd'hui, mais vu ce qui se profile côté techno-streaming et compagnie, je pense que c'est mort.
Plus jamais de jeux, de véritables jeux indépendants, et que de toute façon, ces vrais petits studios indépendants vont finir par crever.
Ça me rend triste, voilà, mais si jamais un studio met toutes ses billes pour développer son jeu, et qu'en plus il doit payer pour que son truc soit distribué sur un truc de streaming à la con... Mais ils n'auront jamais les moyens.
Bah, je sais pas, au final, est-ce que ça te coûte quelque chose de publier un jeu sur Steam? Je prends Steam parce que je pense que c'est une des plateformes probablement les plus ouvertes aujourd'hui.
Je sais pas si tu payes ta place ou si tu balances simplement un pourcentage sur tes ventes.
Parce que, du coup, ça vaudrait peut-être le coup de se poser la question. Si effectivement, il y a un droit d'entrée minimum, c'est sûr que ça limite énormément les choses. D'ailleurs, je sais pas si le SRB a abandonné ce projet-là, mais le rating board américain, donc les gens qui s'occupent de savoir si les jeux sont vont pas transformer vos enfants en nazis. C'est ça, je suis désolé. Et insulter votre intelligence par la même occasion, avait déclaré qu'il voulait changer les règles du jeu, et aujourd'hui, si un jeu ne sort pas en boîte, en gros, le SRB n'est pas obligé d'aller mettre un tampon dessus. C'est la règle. Le truc, c'est que le tampon de l'ESRB, il faut le payer. En fait, ça a l'air de rien, mais okay. Il bosse. C'est la manière que l'ESRB a de se financer. Parce que comme tout GIE, comme toute fondation, comme tout groupement d'intérêt économique, il faut qu'il trouve un moyen de se financer d'une manière ou d'une autre. Hein, je me rappelle, alors les gens connaissent peut-être pas ça, mais c'est un exemple peut-être un poil technique, j'en suis absolument navré. Mais le système qui distribue les adresses IP sur Internet, donc c'est des fondations en fait qui sont indépendantes, mais il faut quand même qu'elles arrivent à se financer. Donc pendant un moment, celle qui s'occupe de l'Europe, qui s'appelle le RIP, faisait payer les écritures. En fait, c'est-à-dire quand tu voulais faire modifier quelque chose, t'avais un fee à payer pour faire modifier quelque chose dans les bases de données du RIP. Donc le SRB, en fait, leur méthode de financement, c'est un peu ça, c'est de dire bah votre jeu il sort en boîte, très bien, vous devez me payer quelque chose pour que je vous donne un rating. Et le rating, il est obligatoire, donc en fait, t'as pas le choix, c'est la manière qu'a l'industrie d'arriver à financer ce truc-là de manière, entre guillemets, équitable. Et le SRB avait eu un projet pendant un moment de dire, on va aussi faire payer les jeux sur les plateformes de téléchargement, il n'y a pas de raison. Mm-hmm. Ce rating, à l'origine, était gratuit, maintenant il l'est plus. Il y avait eu une espèce d'énorme levée de bouclier à ce moment-là, parce que les mecs ont dit, attendez, vous allez tuer tout un pan de l'industrie qui galère déjà pour arriver à faire publier leurs jeux.
Qui n'ont pas les moyens, oui.
Qui n'ont pas les moyens. Donc je ne sais pas quelle est la plateforme la plus ouverte de ce point de vue-là, mais c'est sûr qu'avoir des plateformes de moins en moins ouvertes, ça va forcément poser des problèmes. Je ne sais pas s'il y a un droit d'entrée, je sais que Nintendo a énormément assoupli sa politique sur la production de cartouches Switch, puisque c'est pour ça qu'on a les Limited Run, les Super Rare et tout ça. Mm-hmm. Je ne sais pas si ils font pas quand même un petit peu de contrôle qualité sur qu'est-ce qu'ils laissent publier sur leur console. En dehors du « techniquement, le jeu il marche et il fera pas cracher la machine ».
Aucune idée.
C'est pas si évident que ça. Ce serait peut-être intéressant d'aller appeler nos copains du syndicat des travailleurs du jeu vidéo.
Savoir comment ça marche.
Ouais. Pour savoir comment ça marche, ce genre de truc-là en interne, parce que j'ai l'impression que la notion de jeu indépendant, elle est quand même énormément liée à ça. C'est-à-dire, pendant un moment, le jeu indépendant, c'était des gens qui arrivaient à compiler des trucs sous Windows et que tu pouvais les installer. Et que c'était pas. Voilà, les gens pouvaient pas produire de jeux sur console parce que ça coûtait cher. Et que. Finalement, produire du jeu sur PC, c'était là où tu avais la plateforme la plus ouverte, puisque n'importe quel connard pouvait compiler un jeu sur PC et le distribuer. Aujourd'hui, les plateformes de distribution type Steam doivent quand même forcément verrouiller un peu le jeu, d'une manière ou d'une autre.
Je ne sais pas du tout.
Bon. Je pense qu'on n'apportera pas de réponse définitive de toute façon. Mais voilà, aujourd'hui, la définition du jeu indépendant, je pense qu'effectivement, faut pas confondre le jeu arty.
Ouais.
Et le jeu indépendant.
Par contre, toi, le côté positif que je vois, c'est que... C'est quoi, ça a commencé à vraiment exploser à l'époque 360 à la...
C'est le Xbox Live Arcade qui a commencé, parce que je pense qu'effectivement, c'était vraiment pas cher de publier des trucs sur Xbox Live Arcade. Ouais. Il y avait des conditions un peu drastiques sur la taille des jeux et tout ça, mais c'est là où, effectivement, il y a des gens qui ont pu commencer à faire des trucs, quoi.
Et le côté positif que je vois à tout ce chemin parcouru, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de jeu a une visibilité qui est pas négligeable, et tellement pas négligeable que ça en devient même un argument dans la guerre des consoles, quoi.
C'est clair, aujourd'hui Nintendo est très très fier de dire qu'il se vend beaucoup plus d'exemplaires de jeux sur sa console que sur les consoles concurrentes.
Et pas qu'un peu.
Et pas qu'un peu en plus, oui, c'est vrai que c'est des vrais gros trucs. Hein.
Voilà, du coup, le jeu indépendant, c'est ceux qui se financent sur Kickstarter en bouffant des croquettes pour chat.
Stop, arrêtez Kickstarter, stop, s'il vous plaît, stop. Bref, nous allons marquer une seconde pause musicale avant d'aborder les Nindies Direct, qui est aussi quelque chose qui est quand même une visibilité énorme pour des jeux qui n'en auraient peut-être pas eu il y a quelques années, c'est-à-dire que maintenant, c'est même les gros éditeurs Nintendo qui font la promotion et qui s'en servent effectivement comme d'un argument marketing. Je trouve ça intéressant. Et puis, faire la promotion comme ça, je pense que quand t'es un petit studio indépendant de 8 ou 10 personnes et que tu débarques et que on te dit bah écoutez les gars, on va vous mettre dans le Nintendo, dans l'Indies Direct qui sera diffusé sur internet et vous allez avoir
Je pense que t'es content.
Je pense que tu vas avoir quand même une certaine fierté et je pense qu'il y en a qui ont vraiment pas à rougir parce qu'ils font des jeux d'excellente qualité.
Yes, et je pense que t'es encore plus content quand non, on en parlera plus tard, le dernier de la liste.
Je pense que le dernier de la liste, les mecs doivent être hyper fiers d'eux. Mais bref. Alors, on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Final Fantasy VII. Alors, je dois vous avouer que Final Fantasy VII, je n'y connais absolument rien. Donc, je vais laisser Mecton en parler.
Ah, bon, bah, c'est juste le thème de Genova. Voilà, ceux qui ont joué connaîtront.
Ceux qui n'ont pas joué n'auront strictement aucune idée de ce que c'est.
C'est un RPG avec des graphismes 3D très moches.
Oh, ça y est. Ah, le troll. Mais déjà, à l'époque, c'était un troll, hein, faut le savoir.
Mais une histoire cool et une traduction au schnapps.
Nous n'avons rien contre le schnapps. Bref. Bon, donc on s'écoute Genova, donc J-E-N-O-V-A, avec des tirets entre les deux. Et un H à la fin, peut-être, non, même pas.
Non.
Bref, ça dure 2 minutes 30 et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Tour.
Je sais pas ce que j'ai zappé un truc entre deux, mais c'est pas grave. Donc on va parler d'une Indies Direct. On va le faire dans l'ordre dans lequel ça a été présenté.
Bientôt un State of Play Direct. Indie, pardon. Ah merde. Bon.
Nind of Play Direct.
Ouais.
Non, Inside Nind of Play Direct.
Putain.
Je pense qu'on tient un concept. Mecton a eu la très gentillesse de nous faire un très joli résumé sur le dojo qui est toujours accessible, dans lequel en 2-3 phrases et avec le
Attends, pourquoi t'as prévu de le virer ?
Non, pas du tout.
Ah, ok. M'a fait
pourquoi
peur.
Tu dis ça ?
Toujours accessible.
Non, mais c'est pour dire que l'abonnement à 0€ que tout le monde peut payer tous les mois fonctionne pour tout le monde.
L'internet libre, c'est le dojo.
Bonjour, ici l'internet libre. Les Français parlent au français. Attendez, excuse-moi, ça part en couille. Voilà. Donc on va commencer tout de suite très fort avec Cuphead. Donc yes. Cuphead, c'était une exclusivité Microsoft, ça ne l'est plus.
Voilà.
Ça sort sur Switch. Alors ça sort aussi sur PC. Il était déjà sur PC ou pas ? J'ai un gros.
Oui,
doute.
Oui, il était sur PC.
Pardon, il était sur PC. Alors, on l'a déjà évoqué, mais je pense que la raison principale pour laquelle Microsoft a porté Cuphead sur Switch, enfin a fait porter Cuphead sur Switch. C'était parce que, de toute façon, c'est un jeu qui ne correspond pas à son public. Et qu'en réalité, le public pour ce genre de jeu-là, il est sur Switch. Il est sur console Nintendo, tu peux essayer de faire ce que tu veux, c'est comme ça. Et donc, bah voilà, le jeu, il a été porté sur Switch, et je pense pas que ce soit particulièrement un rapprochement entre Microsoft et Nintendo pour quoi que ce soit, c'est simplement une question de logique business côté Microsoft.
Il y a une toute petite phrase dans le direct où la voix off te dit le jeu est dispo, et merci à nos amis de chez Microsoft. Ça sonne étrange.
Mais ça sonne un peu bizarre, mais je veux dire, je suis d'accord avec JBC, la raison principale, c'est le pognon.
Ok.
Je suis pas certain que Cuphead ait été rentabilisé.
Je sais pas.
Et alors par contre, il y a quand même un truc qui m'amuse beaucoup, c'est que les campagnes promo de Cuphead de Microsoft, c'était genre, seule la Xbox peut faire tourner des graphismes pareils, tellement c'est trop ouf ce qu'on a fait, et en fait, il tourne en 1080p60 sur Switch, apparemment en docké, en 720p60 en portable, et ça pose aucun problème. Voilà. Et donc effectivement, les exclus MS ne le restent pas longtemps. Maintenant, d'un point de vue business, c'est pas forcément idiot, je veux dire, s'ils en vendent des camions sur Switch, il y a quand même... Enfin, moi, personnellement, je suis très tenté de l'acheter.
Alors, tiens, je te coupe tout de suite. Donc, il sort le 18 avril sur l'eShop. C'est précommandable dès aujourd'hui. Ils ont prévu une version physique.
Ils ont pour plus de mois de mai ou mois de juin, si je me rappelle.
Voilà, il y a un petit patch qui va rajouter... Putain, il y a quoi ? Il y a un perso jouable, si je dis pas de conneries.
Un perso jouable et un nouveau boss, quelque chose comme ça. Enfin, en gros, il y a une espèce de définitive édition qui sort... Alors, ils attendent en fait d'avoir sorti ce patch-là pour faire la version physique, mais ce sera quand même gratuit sur la version des maths, si j'ai bien compris.
C'est ça.
C'était ça. Ça, c'est ça. C'était en gros, ils sortent le jeu sur Switch, ils en profitent pour ajouter un ou deux bonus. Je pense sincèrement qu'ils vont en vendre des cajots.
Ah ben, j'espère. Franchement, il est cool, ce jeu.
Ben, voilà.
Alors, il est cool si vous êtes préparé, parce que même s'il a une esthétique donc toute particulière façon cartoon des années 40, ça reste un run and gun assez hardcore.
Hardcore vite fait, moi j'ai joué sur PC, j'ai pas trouvé ça extrêmement difficile.
T'as essayé les défis en mode pacifique ?
J'ai pas essayé les défis en mode pacifique.
Ça c'est rigolo.
J'ai fini le jeu un peu, enfin pas au ras des pâquerettes, mais...
En ligne droite quoi.
J'ai même pas fini le jeu, alors j'ai fait quelques niveaux en ligne droite. C'est difficile, mais finalement pas plus difficile qu'un contrat ou qu'un...
Non mais voilà, c'est dans cet esprit-là.
Mais c'est dans cet esprit-là, clairement.
Si vous rotez du sang sur contrat, Cuphead, c'est du même ordre d'esprit.
Ouais, voilà, faut aimer... En fait, faut aimer les jeux dans lesquels il y a du... Faut aimer les jeux d'arcade, finalement, où il y a beaucoup de mémorisation, malgré tout. Et, mais ça reste... Enfin, le jeu reste... impardonnable, au sens où quand t'as fait une connerie, c'est... Enfin, quand tu meurs, c'est que t'as fait une connerie.
Oui, c'est pas le jeu qui est mal branlé.
Tout est passable, c'est pas le jeu qui est mal branlé. Contrairement à Fury.
Wow.
Je fais une toute petite parenthèse, hein, mais j'ai eu un moment de rage sur Fury. C'est bien adapté. Ça tombe dans le moins. C'était pas un jeu de mots, hein, je précise. Parce que j'ai l'impression que le jeu se fout de ma gueule des fois, et c'est hyper gavant. Alors qu'effectivement, Cuphead ne fait pas du tout ça. C'est vraiment un jeu typé arcade. Facile à comprendre, difficile à maîtriser. Un peu de mémorisation, mais finalement pas tant que ça. Beaucoup de réflexes. Et voilà, quand tu meurs, c'est vraiment de ta faute. Et en même temps, le jeu est finalement relativement généreux, puisque t'as quand même des checkpoints, t'as quand même... Enfin voilà, c'est pas non plus...
Dark Souls.
Alors je vais faire une autre petite parenthèse. Le deuxième jeu qui nous a été présenté, c'est Overland. Je me souviens plus ce que c'est.
Alors attends, j'ai écrit quoi comme connerie ? Ça a l'air d'être un jeu de tactique narratif avec un soupçon de roguelike, le tout dans une ambiance survivaliste. Voilà.
Voilà.
C'est donc, la fin du monde, il y a des combats et une histoire.
Très bien. Donc on sent... Enfin, je sais pas si ça vous sauce ou pas. Personnellement, c'est vrai que celui-là, il m'est passé au-dessus de la tête. Hein, je...
Ouais, enfin, comme tous les jeux dont on va parler, ils ont chacun une esthétique propre, machin, qui a certainement été un argument pour les mettre en avant dans ce direct. Après, voilà, le problème, c'est qu'on commence à en avoir tellement à tester que c'est chaud d'avoir un avis défini sur tous, quoi.
Ben, c'est clair que ça devient quand même vachement compliqué, quoi. D'arriver à suivre, surtout quand en plus tu... Enfin, moi, jusqu'à présent, je me disais, bon, de toute façon, je les achèterai que quand ils seront en physique, donc c'est bon, mais là, maintenant, en physique, ils y sont tous. C'est quand même du coup très 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 compliqué. Je veux dire, on peut plus se dire oh, non mais c'est bon, je m'en fous, je serai qu'en physique. Non, il y a des trucs. Oui, voilà, je me retrouve avec tous les mois.
Tiens, faut que tu me présentes ton banquier d'ailleurs.
Écoute, il est sympa.
Ok, c'est cool. Alors,
pour info, c'est pour ça que Mortal déménage. Hein. Il a plus
de
place.
J'ai plus assez de place. Attends, je vais faire une photo de ma bibliothèque Switch. En fait, cet après-midi. J'ai rangé Faerûne Collection, qui est donc le dernier jeu Super Rare Games, parce que je suis une petite pupute de Super Rare Games. Et je commençais à ranger, donc comme c'est à F, je l'ai mis dans les F, puis j'ai commencé
putain,
à décaler tous les autres jeux. Mais je suis obligé.
Mais je les trie par date de sortie, putain.
J'en ai trop. Et je les commence à les décaler, et en fait je suis arrivé sur la dernière étagère, et j'avais plus de place, ça fait que je passe sur celle d'en dessous.
Ah,
je
me suis dit, tristesse.
Merde, c'est chaud. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis un petit goodies de Fire Emblem sur l'étagère du dessous et maintenant, il rentre plus. Donc, c'est casse-couille. Bref, voilà.
Dépassement de tampon.
C'est un peu ça. My Friend Pedro.
Ça a l'air craqué.
C'est pas le jeu avec un klebs ?
Non, le jeu avec le klebs, alors je pense, soit il parle de Deltarune, mais ça, c'était précédemment, soit c'est Red Lantern et ça arrive un peu plus loin.
D'accord, donc My Friend Pedro.
My Friend Pedro, je l'ai vu ça comme un Max Payne en 2D.
C'est vrai que c'est ça que ça ressemble à. C'est un peu entre Hotline Miami et. Sauf que t'as pas le côté frénétique. Ça a l'air.
Et avec un côté pété où c'est une banane a priori qui t'encourage à buter tout ce qui est autour de toi. Sûrement un hommage à Iwata.
Sûrement un hommage à Fury, hein, dans lequel il y a un mec avec une tête de lapin qui te débite des conneries entre deux niveaux. Putain, ce jeu m'a cassé les couilles en vrai. Neo Cab.
Attends, My Friend Pedro, ah. Exclusivité Switch pour les consoles. Combien de temps, j'en sais rien, mais ils l'ont souligné.
Cool, d'accord, j'avais pas noté ça. Neo Cab.
Un jeu de taxi.
Cool, c'est Crazy Taxi mais en 2D.
Non, a priori c'est plus, je sais pas si vous connaissez Papers, Please.
Oui.
Alors si vous le connaissez pas, jouez-y, hein. C'est un jeu de douanier, ça a pas l'air super sexy comme ça.
Le sous-texte du jeu est assez extraordinaire.
Il est incroyable. Et du coup, voilà, donc Neo Cab le présente d'une manière qui moi m'a fait penser à Papers, Please, mais dans le rôle d'un chauffeur de taxi.
C'est-à-dire que tu peux refuser des clients, accepter des clients, faut quand même que tu arrives à finir ta journée correctement, faut aller dans des quartiers glauques, faut...
C'est comme ça que j'ai compris le trailer, peut-être que je me plante complètement, aussi. Mais voilà.
Ça peut être sympa comme ça peut être très vite barbant, hein, ce genre de jeu-là. Parce que c'est vrai que Papers, Please, tu passes une heure dessus, ça te fait réfléchir, je trouve que c'est une expérience interactive intéressante, mais enfin voilà, tu le fais une fois et puis c'est tout, quoi.
Ouais.
The Red Lantern, donc du coup ça c'est le truc avec le clébard.
Ouais, alors les clébards, ça a l'air d'être un jeu de traîneau dans l'Alaska.
Ah oui, c'est le truc qui ressemblait un petit peu à Shelter en termes de style.
Alors Shelter, The First Tree, j'en profite, hein, The First Tree, si vous y avez pas joué, ça vaut, putain je sais plus si c'est 10 balles ou 20 balles, c'est un jeu narratif qui dure 3 heures et très touchant si vous êtes sensible un peu aux histoires émotionnantes.
Et du coup, à ne pas faire avec vos enfants.
Non, pour le coup, c'est vraiment... Typiquement, pour moi, le jeu narratif, c'est un truc qui se fait en solo. Et alors, celui-là a l'air d'être un jeu narratif où on joue le rôle d'un... Comment ça s'appelle? Les mecs qui conduisent les traîneaux de chiens. J'ai bouffé le mot.
Le Musher.
Musher, merci. Voilà, avec une petite trame narrative. Pourquoi pas?
Si c'est bien amené, pourquoi pas?
Pourquoi pas.
Darkwood.
Alors je connais pas du tout. A priori c'est un truc qui est un petit peu connu sur la scène PC. Qu'est-ce que c'est ? Un survival avec du roguelike. Voilà. Ah oui, le roguelike est à la mode.
Bah ça a toujours été. Moi le roguelite et tout ça, c'est pas du tout mon truc. Flint Hook, j'ai tenu une dizaine d'heures, mais quand j'ai vu que je finirais jamais le jeu, j'ai décroché. Complètement. Un chauffeur de traîneau. Si la banane s'appelle Pedro, oui, c'est génial. Voilà, le chat est on fire.
Rip le chien, putain.
Arrêtez, s'il vous plaît. Un chauffeur de traîneau, je suis pour. Je vote pour. Je pense que s'il y a quelque chose à faire. Je sais plus où j'en étais du coup.
Katana.
Non, pas Katana.
Katana.
Ah, voilà, le roguelike. Moi c'est pas mon truc, par contre j'ai fait The Flame in the Flood, qui était le 2 ou 3ème jeu de Super Rare Games, je m'attendais pas du tout à ça, et en fait c'est un survival roguelike, et ça marche hyper bien je trouve, le survival roguelike. Alors je pense que l'équilibre est pas évident du tout à trouver pour les développeurs, tu vois très rapidement la génération procédurale de certains trucs, faut quand même être honnête, moi je le vois, parce que je cherche toujours le fonctionnement derrière, donc voilà, mais c'est un style qui peut être très très cool, vraiment. Katana, zéro.
Katana, alors ça c'est Hotline Miami, mais en pixel art et en 2D.
Voilà.
Putain, connard, Hotline Miami c'était déjà en 2D et en pixel art, sauf que bon, Katana c'est la même chose, en vue de côté, pas en vue de dessus.
Voilà, et n'oubliez pas, messieurs les développeurs, appelez vos jeux zéro, comme ça quand vous ferez la suite, vous appellerez 0-2. Merci. Rad.
Team jeu. Schaeffer.
C'est tout ce qu'on a à en dire, voilà. Donc c'est de la merde.
Non.
Non, le dernier jeu de Team Schaeffer était-il bien?
C'est lequel? Broken Age? Team oui. Schaeffer, c'est... merde, putain, Monkey Island...
Grim Fandango... Non, peut-être pas Grim Fandango, d'ailleurs. Monkey Island, oui. Full Throttle.
Full Throttle. Ouais, enfin, à l'époque, LucasArts, il était dedans avec Ron Gilbert.
Le très très bon Thimbleweed Park.
Yes, et j'ai bouffé, je cherche le truc avec Jack Black dans le monde du métal...
Oui, je vois de quoi tu parles, mais le nom m'a échappé. Délirant aussi, ce truc-là, d'ailleurs. Un univers délirant, en tout cas.
Brutal Legend.
Brutal Legend, voilà. Effectivement. Alors, Brutal Legend, moi, j'ai pas fait, je sais pas si ça...
Drôle. Ouais,
ça vaut le coup. C'est drôle.
Par contre,
Broken Edge, Kickstarter, très clairement raté. Hein. c'est chiant.
C'était un des premiers Kickstarter qui avait explosé son
budget de départ. Hein.
Son enveloppe demandée, ouais. Ouais, c'est pas le meilleur qu'il ait fait. C'est ouais. Pas dégueulasse non plus, mais c'est pas le meilleur.
Okay. Creature in the Well, la créature dans le puits, c'est la version du Québec.
Alors ça, on parlait originalité des jeux indé ou arty. Ça m'a l'air d'être un dungeon crawler, donc façon action-aventure, mêlé de flipper.
C'est à peu près ce que j'en avais retenu. Alors les jeux mêlés de flipper, on a eu un Metroidvania mêlé de flipper avec Yakuza Island Express qui était très bon.
Oui.
Et avec un prémisse de départ qui était hyper curieux, c'est-à-dire vous êtes un bousier sur une île.
Et, un bousier, pas un boursier.
Voilà, tout à fait. Et il y a des flippers. Mais le truc qui est totalement délirant, mais le jeu marche hyper bien. Ben, je me dis pourquoi pas.
Ouais.
C'est le genre de truc qui peut quand même. C'est un mélange curieux, mais je trouve que ça renouvelle bien le jeu de flipper qui, malheureusement, en dehors des tables différentes, finit toujours par tourner un peu en rond. Mm-hmm. Ça permet de faire des tables originales et puis ça permet de faire des jeux éventuellement originaux.
Comme quoi, Odama a fait des petits.
Et Odama, c'était pas mal non plus. C'est hyper curieux, mais c'est vrai que c'est des mélanges auxquels tu t'attends pas. Mais en fait, le flipper, c'est des vrais jeux, hein, au sens où c'est pas juste renvoyer la boule, il y a des vrais jeux dans lesquels il y a des vrais objectifs, faut aller faire sauter tel truc pour aller ouvrir tel machin. T'as vraiment des jeux, quoi. C'est pas une blague. Donc c'est vraiment intéressant. T'as pratiquement des quéquettes, oui.
Ah
Blood Roots.
Alors celui-là, c'est un truc qui va tellement à fond la caisse, que ce que j'en ai compris, c'est que c'est un jeu d'action qui va à fond la caisse.
D'accord. Bon, je suis désolé, du coup, on n'aura pas de plus que ça.
C'était chaud à comprendre. Hein. Une minute, mais...
En même temps, c'était chaud. Non, voilà, faut nous comprendre, c'était hyper chaud. Peut-être plus intéressant, Pine.
Ah, tu dis Pine.
Moi, je dis pas Pine.
Ah, moins drôle.
C'est un jeu avec un sapin, non?
C'est ça.
Tu es Turok? Ah non, c'est pas ça. Ça. Alors, je sais pas si c'est un jeu de survie, par contre, mais le jeu a l'air... Enfin, je trouve que le jeu a l'air hyper clean, en fait.
Oui. Graphiquement, oui. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que dans la présentation qui en est faite en voix off, l'argument qui est mis en avant, c'est « Nos actions auront un impact sur le jeu. » Donc, environnement et adversaire. Et direct, dans ma tête, ça a tilté Peter Molineux.
Ah oui, mais t'es un bâtard.
Je suis un connard.
T'es un gros connard.
Je le cache pas, ça.
T'es quand même un gros connard. Le jeu a l'air joli. Le contexte a l'air sympa. Enfin, c'est bien un indien, c'est bien celui-là.
Ouais, dans un monde qui est peuplé de différents humanoïdes, mais qui sont tous avec des têtes d'animaux.
Ah!
Donc tu as la population.
Putain, est-ce qu'on peut arrêter avec ce jeu?
T'as la population des cerfs, la population des renards. Je sais plus ce qu'on voit d'autre dans le.
Oui, d'accord, oui, ok. Non, mais en fait, j'avais pas situé ça tout à fait comme ça. Ok. Ça. Quand même, enfin moi ça me curiosite un petit peu, ne serait-ce que parce que c'est vrai que le jeu arty qui est en pixel art 2D machin, c'est sympa, il y a des vrais concepts hyper sympas à faire avec ça, mais je trouve que de temps en temps ça pourrait être intéressant d'avoir des vrais trucs 3D un peu
production value, quoi.
C'est un peu ça, avec des production value un peu plus élevées, d'autant plus qu'aujourd'hui avec du Unity et des choses comme ça, c'est quand même pas si compliqué que ça à faire. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est-à-dire parce que ça change un petit peu du jeu arty 2D, machin, pixel art. J'aime beaucoup ça, hein, les jeux en pixel art, c'est pas la question, mais de temps en temps, le jeu un petit peu full 3D, machin, plutôt joli, plutôt intéressant dans son approche, moi, ça me curiosite un petit peu.
Tiens, je place un petit mot sur Yonder, ça existe en boîte, c'est trouvable à pas cher dans tous les supermarchés, et c'est vraiment cool.
C'est un petit jeu, c'est très, très contemplatif, si je me rappelle bien.
C'est un petit Breath of the Wild, mais plus en mode je collecte des trucs pour faire plaisir à des PNJ.
Cool.
Vraiment sympa.
Moi je peux ne pas vous recommander je sais plus quoi là,
le truc est... avec un F là.
Ouais, c'est avec un ça aussi.
Je commence à l'oublier, ouais. C'est bien.
Super Crate Box. Ah, celui-là je me rappelais plus du tout.
Alors, bordel, donc ça va, il y a la trilogie. Hein. Donc, t'as Super Crate Box, Nuclear Throne et Ultra Bugs, que j'avais envie d'appeler Patch Tuesday, mais.
C'était déjà pris.
Refusé. Ouais. Trois jeux de chez Vlambeer. Vlambeer, bière, c'est bien. Vlambeer.
La bière du Vlan.
Ouais. Alors perso, j'avoue, je les connais pas, mais ça a l'air d'être des gens qui font des jeux de donc action très très typée arcade. Et voilà, donc il y a trois concepts de chez eux qui sortent. C'est tout dans l'année, tout ça.
Nuclear Throne, moi, ça me dit quelque chose, mais je sais plus pourquoi.
Alors ça me dit quelque chose parce que la BO est composée par le mec qui a fait Crypt of the Necrodancer.
C'est pour ça.
Et tant d'autres.
C'est pour ça. Donc en fait j'ai dû entendre la BO déjà, mais j'ai pas vu le jeu. En tout cas c'est que du jeu d'action, si tu me confirmes.
Ouais ouais ouais.
D'accord. Donc ça peut être très cool aussi.
Ouais, tout axé un peu shoot'em up.
D'accord.
À voir, très, ouais, très, cool. Très arcade.
Parce que c'est vrai que le shoot'em up est très bien représenté sur Switch, la console sur laquelle le shoot'em up est le plus représenté, oui, sachez-le. Avec des exclusivités console pas inintéressantes, genre Danmaku Unlimited 3 n'est sorti que sur Switch.
Sérieux ?
Bah sur PC et Switch apparemment.
Putain, beau.
Voilà. Mais le shoot'em up très très bien représenté sur Switch, et apparemment ça se vend très bien. Les mecs de Stereden par exemple étaient hyper contents apparemment des ventes qu'ils ont fait sur Switch.
Excellent.
Pour un jeu qui a déjà quelques années en plus, donc c'est cool.
Faut que je me chope un truc pour jouer avec l'écran à la verticale.
Oh mec, faut que je me chope un stick arcade. mais là mon banquier va peut-être pas être d'accord. Swim Sanity. Alors je suis là, c'est pareil, c'est la partie où j'ai dû m'endormir au milieu du direct, parce que il me dit rien du tout celui-là.
Alors shoot them up. Thématique sous-marine, sous la flotte quoi.
Alors les shoot'em up sous la flotte,
je sais pas, mais ça a l'air sympa et ils orientent leur trailer sur le fait qu'il y a beaucoup de variantes dans les modes de jeu fournis.
Ok, bon, pourquoi pas. Blaster Master Zero 2. Voilà, donc. alors Blaster Master, c'est un jeu qui à l'origine est sorti sur NES, qui NES. Était très bon, enfin qui a eu son petit succès sur NES, notamment aux États-Unis.
Bah, il est dans l'appli online.
Ah oui, c'est vrai, il est sur le Nintendo machin, mais c'est vraiment cool, hein, Blaster Master. C'est encore, alors c'est relativement difficile comme jeu, au sens où on perd quand même très vite des points de vie.
Ça doit pas être si difficile que ça, j'ai réussi à le finir.
Ouais, voilà, mais je veux dire, ce que je voulais dire par là, c'est que le jeu est pas, c'est pas un jeu qui te prend par la main dans lequel il y a des checkpoints tout le temps, mais il reste quand même hyper accessible, surtout pour un jeu NES. Et, et c'est vrai que c'est quand même très 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 cool comme jeu, même à l'époque, et je pense que s'il a eu un certain succès, c'est aussi pour ça, c'est parce que le principe du jeu est plutôt sympa, les différentes phases de jeu, c'est-à-dire les phases en
véhicule tank, ou à pied, là.
Les trucs à pied en vue du dessus et tout ça, c'était hyper varié, les boss étaient variés et tout, donc c'est vraiment un jeu sympa. Malheureusement, ça a vite périclité parce qu'il y a une version Game Boy qui en fait reprend essentiellement, je crois, la version NES. Il y a apparemment une version Super Nintendo qui est complètement ratée. Il y a eu une version PlayStation qui est encore pire. Il y a eu un remake sur Wii qui était catastrophique. Bon, voilà, c'est le truc qui est parti en couille. Et quand la Switch est sortie, un des tout premiers jeux qui était disponible de Inti Creates, c'était Blaster Master Zero et qui était vraiment un retour aux sources dans lequel on reprenait le principe du premier Blaster Master, c'est-à-dire des niveaux en scrolling horizontal vertical dans un tank dont on peut sortir du tank quand on a besoin, puis des niveaux en vue du dessus dans lequel il faut aller faire... C'est pratiquement un dungeon crawler, en fait, dans le principe. C'est-à-dire que finalement, t'arrives sur une salle, paf, tu passes en vue du dessus, tu ratisses la salle, tu récupères le bonus ou je sais pas quoi, tu ressors, pouf, tu continues à explorer. C'est vraiment cool. Et voilà, donc là, les mecs sortent une suite, c'est pas étonnant, parce que le premier jeu, à mon avis, a plutôt bien marché, comme c'était vraiment un des premiers sur Switch et tout ça. Voilà, j'espère qu'il y aura un jour une compilation en physique des deux. En tout cas,
cool.
Je peux vous le recommander, c'est vraiment très 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 cool, Blaster Master Zero.
Yeah.
On enchaîne avec Stranger Things 3 The Game.
Voilà. Netflix sur Switch, n'est-ce pas ?
Voilà, mais alors c'est là où je commence à avoir un petit peu du mal avec le concept de jeu indé, parce que là, les mecs ont quand même une très grosse licence. Alors c'est peut-être un petit studio, mais ça commence à être un peu limite.
Non, mais là, voilà, clairement, on est dans un jeu de commande.
Après, ça veut pas dire qu'il va être mauvais. Hein.
Ah non, je dis pas ça de manière péjorative.
Et on avait déjà vu d'autres jeux, je pense notamment à Scott Pilgrim vs. The World, qui avait eu un jeu...
C'est vrai.
Qui était sorti seulement sur XBLA, et peut-être sur PC.
Beat'em All, sympa. Ouais.
Beat'em All, très très sympa. Et voilà, donc c'est pas parce que c'est un jeu de commande que c'est pas bon, mais par contre, un jeu indé qui est un jeu de commande, je trouve que ça commence à être une confusion des genres un petit peu compliquée. Bref, et le dernier, le gros morceau.
Yes, celui-là.
La grosse surprise, celui-là, on s'y attendait pas. Là, je pense que
les mecs
ils ont
être contents.
Mais je pense qu'ils ont dû littéralement se chier sur les cuisses quand ils ont appris qu'ils avaient le droit. Quoi. Alors je sais pas si c'est eux qui sont venus avec un concept ou Nintendo qui leur a proposé.
Je sais pas.
Mais en tout cas, c'est très très cool. Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer. Et donc, bah voilà, Mecton, je vais te laisser en parler puisque tu connais probablement beaucoup mieux le jeu que moi.
Alors, Crypt of the NecroDancer, comme je disais, c'est un... Pour moi, c'est un action RPG, donc la dimension RPG, elle est limitée, hein, où chaque action du personnage qu'on peut déplacer en vue de dessus, façon... Putain, mais ça paraît tellement évident. J'allais dire façon Link... Enfin, Zelda 3, quoi. Donc chaque action qu'on doit faire, se déplacer, taper, discuter, ça doit se faire en rythme avec la musique. Et là, du coup, bah on a ce jeu avec un skin Zelda. Du coup, j'imagine avec des thèmes de la série Zelda remixés par... j'ai bouffé son nom, mais par le mec qui a Darren Baronofsky, voilà. Et non, franchement, ça peut être très très cool. Je suis content.
T'es genre hyper content.
Ouais.
C'est vrai que c'est... Alors le seul truc, c'est que... C'est assez incroyable parce qu'on s'y attendait pas. Enfin, je sais pas si quelqu'un s'y attendait parmi vous, mais...
Attends, tu vois, un rapprochement entre un jeu indé et une grosse licence. C'est ouf.
Oui, puis en plus, c'est Nintendo qui... Enfin, d'habitude, ils sont hyper protecteurs, surtout Zelda. Je veux dire, grâce à Squalala, nous sommes partis. Voilà, hein.
Ouais, plus jamais ça.
Et puis en plus, c'est un jeu, je dirais, presque féministe, finalement.
Ah oui, oui, c'est une
puisque,
héroïne.
Puisque c'est deux héroïnes, attention, on n'a pas... Alors je sais pas si on a peut-être Link à un moment, mais c'est quand même...
Il est quand même assez marrant. Je crois qu'il est dans le trailer. Il est dans le trailer. Yes, il y est, je confirme. Ouais, franchement, c'est cool. C'est prévu pour ce printemps, donc ça va arriver vite. Après, voilà, je me pose la question, je sais pas si c'est un DLC ou un standalone.
Alors, c'est ça que j'ai pas compris, moi. C'est effectivement si c'est un jeu complètement standalone qu'on peut acheter indépendamment, ou s'il faut acheter Crypt of the NecroDancer et t'as le DLC en plus, quoi. Alors, si c'est le cas, c'est un petit peu dommage. On nous confirme qu'on joue Link à un moment. Mais voilà, j'ai l'impression que le focus a été fait là-dessus.
Vivement.
Mais franchement, ouais, je serais extrêmement curieux de... Alors, on confirme aussi que c'est un standalone.
Ok, cool.
Je serais quand même extrêmement curieux de voir ce que ça va donner. Ne connaissant pas du tout Crypt of the NecroDancer, c'est un petit peu comme quand il y a eu Hyrule Warriors, où finalement je connaissais pas tout, très très peu les Musos, et qu'aujourd'hui, quand je vois un Muso, je me dis « Ah, ça peut être sympa !» Donc là, c'est pareil, ça peut peut-être être effectivement un tremplin pour le truc, et puis c'est une vraie reconnaissance d'un développeur et d'un savoir-faire, parce que Nintendo dit « Ok, on vous autorise à utiliser Zelda, quoi. » C'est quand même pas n'importe quoi. Jusqu'à présent, les gens qui pouvaient utiliser du Zelda, c'était quand même plutôt des gros. On va dire ça comme ça. C'est quand même rarement... Ça a quand même rarement été, je pense, du jeu indé. Hein.
Je vérifie. Non, il n'y a pas de démo ni sur l'eShop, ni sur Steam.
Il y en aura peut-être une après. Par contre, le jeu ne sortira jamais sur Steam.
Non, celui-là, il y a peu de chance. Ouais.
Voilà. On va se quitter là. Parce que ça fait quand même long comme émission, déjà. Et voilà, on a fait un gros tour du tout ça. Oui, je suis d'accord, JBC, je prie aussi tous les jours pour que Shinen puisse s'occuper de F-Zero. Parce qu'ils sont très bons, Shinen. C'est les petits Allemands qui avaient fait Fast RMX et Fast Racing Neo. Qui sont plutôt deux très bons jeux. Alors, c'est pas F-Zero, hein, mais ils ont le savoir-faire, ils ont la technique. C'est des gens qui sont issus de la démo scène allemande. Donc c'est
putain,
des gens qui...
Pardon, il fait chier, Méduse. Je t'ai coupé, mais Capcom a fait les oracles, du coup Capcom c'est un dé.
Ah, t'es un bâtard. Méduse, t'es un gros tarba. Je veux que tu le saches. Bien vu, Mehdi. Il se reconnaîtra. Est-ce que quelqu'un peut lui répondre ça, s'il vous plaît, pour...
Ouais, il va nous entendre.
Mais voilà, donc que des très bonnes nouvelles. Beaucoup de bons jeux, peut-être pas tous, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui sont intéressants. Les Nindies Direct, c'est devenu une espèce de tradition maintenant, j'espère que ça continuera. Voilà, et nous, derrière, on va se quitter. On va se faire des gros bisous. Et on va se retrouver alors la semaine prochaine en podcast, dans 2 semaines pour une autre émission. Je pense qu'on parlera un peu de Yoshi Crafted World puisqu'il sort cette semaine. Et on parlera peut-être encore de quelques bricoles. J'ai l'impression que Antix avait envie de parler de 2-3 trucs. Je le sentais bien nous parler d'un jeu ou deux.
Il va nous raconter ses vacances, oui.
C'est possible. Peut-être qu'on... Oui, il y a aussi le jeu dans lequel on tue des nazis à Paris. Oui, très bien. D'accord. Peut-être qu'effectivement, on fera une petite rétrospective sur Wolfenstein aussi, parce que il y a Wolfenstein Youngblood qui va sortir, et je me dis, ça peut être intéressant de se réintéresser à ce truc-là. Voilà. En attendant, on vous fait à tous des gros bisous, et on vous dit à dans 2 semaines. Bisous.
Bisous.
Salut.